Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toute l'équipe de Mondial Sport vous souhaite une très belle année 2025. En attendant de vous retrouver en direct le week-end prochain, nous vous proposons ce samedi de réécouter notre émission du 16 novembre dernier. À l'affiche, un revenant, Mike Tyson, de retour sur les rings au cœur de l'automne.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de passer un nouveau week-end en votre compagnie dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe et à toutes les époques, surtout quand ces époques se télescopent comme la nuit dernière au Texas, choc des générations, et mélange des genres sur le ring à un acteur, influenceur, créateur de contenu archi-célèbre. Âgé de 27 ans, a battu un ancien champion du monde des poids lourds, une immense vedette de l'histoire de la boxe, un homme de plus de deux fois son âge, un certain Mike Tyson. Victoire dans les règles du noble art, bof bof, les règles avaient été modifiées pour l'occasion et cet événement diffusé en Mondovision par Netflix n'avait rien de bien noble selon certains observateurs. Mike Tyson et surtout sa personne ont pris des coups hier. Les jeunes qui l'auront vu boxer pour la première fois ce vendredi auront du mal à comprendre ce que représente vraiment Mike Tyson. Pour le meilleur comme pour le pire, c'est surtout sa réputation qui a pris un sacré coup. Heureusement, Mondial Sport est là. Nous sommes moins clinquants que Netflix, on plante moins aussi, moins suivis sur les réseaux que Jake Paul et probablement plus sérieux que Mike Tyson, y compris en ce qui concerne sa propre carrière. Une entrée sur le ring, ou alors était-ce la dernière marche du condamné à la défaite ? Mike Tyson savait-il, alors qu'il s'avançait vers les cordes, qu'une humiliation se profilait pour lui ? C'était la nuit dernière, né en 1997, son adversaire Jake Paul n'était qu'un bébé hein, lorsque Mike Tyson mordait l'oreille de son adversaire de l'époque, Evander Holyfield. Et Jake Paul n'était même pas un projet pour ses parents lorsque Mike Tyson était à son apogée. C'était encore 10 ans plus tôt, à la fin des années 80. Un parcours, j'en suis sûr que connaît par cœur notre invité du jour, la voix française de la boxe en France, la voix française de la boxe tout court. Rien que ça, Jean-Philippe Lustig. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci. Et merci d'être venu en direct dans notre studio dans Mondial Sport. Notre professeur X se levait-il la nuit pour regarder les combats de Mike Tyson ? Bonjour, Xavier Foupa-Pocam.
Je suis le professeur X, c'est l'heure de la punition. Et effectivement, je me levais, moi, pour regarder les combats de Mike Tyson. Parfois, on était un peu déçus parce que c'était un peu court. Bon, c'est pas ce qui s'est passé ce soir.
Ah, mais c'était fort, hein. Court, ah ouais. Mais fort, ouais, en termes d'émotion.
Un petit peu comme le café qui vient de vous être servi, Jean-Philippe Lustig. J'en suis certain, oui, court, fort, et ça tombe bien. C'est la parfaite recette pour une excellente émission consacrée à Mike Tyson, à la boxe et au sport de combat. Sachez tout de même que Jake Paul n'est pas la seule légende née en 1997, n'est-ce pas, Sofiane Amazian ? Bonjour.
je vais le prendre bien.
Bah oui, pourquoi mal le prendre ?
On est à l'échelle d'un
vainqueur
de Mike Tyson.
Oui, alors, on peut définir Jake Paul comme ça si vous voulez. Combat absurde pour certains, événement énorme, c'est indéniable, oui. Médiatiquement parlant. Racontez-nous, Sofiane Amazian, ce duel Tyson-Paul.
Déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez rappelé l'âge de Mike Tyson, mais on va encore le rappeler pour nos auditeurs. Mike Tyson, aujourd'hui, il a 58 ans, il a décidé de relever un nouveau défi, enfiler de nouveau les gants 19 ans. Oui, 19 ans après son tout dernier combat professionnel, c'était en 2005, son adversaire, c'était Jake Paul, hein, ce fameux youtubeur reconverti boxeur. Alors, il prend quand même sérieusement la pratique de la boxe. Hein. Il est officiellement boxeur professionnel. Il a 27 ans, le tout programmé, designé par la plateforme Netflix. C'est d'ailleurs la première fois que Netflix diffuse un événement sportif dans le monde. L'émulation autour du combat, elle est super grande. C'est expliqué, et je pense que vous le savez pourquoi, la présence sur la carte de l'homme le plus dangereux de la planète. L'affrontement, il faut le savoir, avait été programmé un peu plus tôt dans l'année. On l'a décalé parce que Mike Tyson était malade malgré tout.
Oui, l'homme le plus dangereux de la planète. Bah, bon, il a des ennuis de santé
comme tout un chacun, voilà. Il a le droit d'avoir des problèmes de santé. Mais
ça reste un homme.
Bah, voilà, tout homme est vulnérable et il l'était à ce moment-là, Mike Tyson. Malgré tout, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que l'AT&T Darlington au Texas, c'est le nom du stade où a eu lieu ce gala de boxe. Ça a été plein, plus de 70 000 tickets vendus. C'est le record de billetterie pour un gala de boxe américain en dehors de la ville de Las Vegas. Mike Tyson s'est donc avancé au ring, il était concentré, il était là en toute simplicité. On a entendu la musique d'ailleurs au tout début de l'émission de Mondial Sport. Alors son adversaire, lui, Jake Paul, a été un peu plus inventif. Il était assis à côté de son frère Logan Paul, lui aussi influenceur, lui aussi sportif de haut niveau. Et les deux étaient assis dans une énorme, énorme voiture verte.
Et concernant le sportif maintenant, une bonne entame de combat pour Mike Tyson. On se dit que peut-être la magie va renaître, mais en fait non. Il n'a jamais mis en danger un Jake Paul, certes qui prend la boxe au sérieux, mais qui n'est pas un boxeur. Et Jake Paul a tout de même contrôlé Mike Tyson. Ça paraît incroyable de dire cette phrase, mais voilà.
La magie a duré 4 minutes, 2 rounds, on va dire. Il était plutôt agressif, Mike Tyson, et je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission. Je pense que clairement, il a voulu essayer de compenser son manque de coffre physique. Enfin, c'est normal, il a 58 ans et c'est une stratégie qu'on voit aussi beaucoup au MMA où on se sent un petit peu moins bien physiquement. Alors on essaie de donner tout dans les premières secondes.
Non, mais puis on ne change pas le style d'un homme à 58 ans aussi. Hein. C'est partie de sa personnalité.
C'est vrai que c'est
son style. Il a toujours été comme ça. Hein. C'est un bulldozer, il vous rentre dedans, il vous harcèle. Sauf qu'en même temps, il faut avoir les ressources pour le faire.
À 58 ans, vous imaginez donc que au fur et à mesure du combat, ça devenait de plus en plus compliqué. À noter, il n'était pas tout à fait au point physiquement, Mike Tyson. Il avait une sorte de protection au genou. Il dira même après le combat qu'il était blessé au genou. Et donc, au fur et à mesure du combat, Jake Paul a commencé à dominer, mais sans donner le maximum, histoire de rallonger. Vous imaginez bien le spectacle offert par Netflix aux millions de spectateurs à travers le monde. On rappelle que ce combat d'ailleurs fait partie aussi de cette farce. Netflix avait des règles particulières. D'ailleurs, d'abord, la taille des gants était différente pour s'adapter aux deux boxeurs, surtout pour Mike Tyson. Et puis les rounds étaient rétrécis. Ici, c'était 8 reprises de 2 minutes.
Incroyable.
Et c'est vrai que ce changement de règles, on peut le critiquer. Et à noter aussi un fait important en fin de combat, la dernière reprise, c'était hyper intéressant. Les 30 dernières secondes, c'est simple, les deux combattants, ils ont arrêté de se combattre. Victoire à la fin de Jake Paul par décision unanime. Ce qu'on retiendra, c'est que Mike Tyson, il a tenu la totalité des 16 minutes de combat. Il n'a pas été mis KO et puis on lui a rendu hommage à la fin du combat, Jake Paul. On l'écoute.
Tout d'abord, Mike Tyson, c'était un honneur. S'il vous plaît, applaudissez-le. C'est une légende, c'est le plus grand. Il est le plus grand boxeur de l'histoire. Je me suis inspiré de lui. Nous ne serions pas là aujourd'hui sans lui. Cet homme est une icône. C'est un honneur d'avoir pu combattre contre lui. C'est l'homme le plus dur, le plus dangereux de l'histoire. C'était un combat difficile, comme je me l'étais imaginé.
Alors qu'est-ce qu'on va retenir finalement de cet événement ? Sportivement, c'est clair, pas grand-chose. Évidemment, est-ce que c'était censé de faire revenir un ancien boxeur de 58 ans sur un ring ? Certainement que non, mais les chiffres, puisque c'est ça qui importe, Jake Paul sont là, la soirée. Ça a été un énorme succès commercial et les deux protagonistes s'en sont mis plein les poches. 40 millions de dollars minimum pour Jake Paul qui était également promoteur du gala et on compterait plus de 10 millions de dollars pour Mike Tyson, qui finalement est aussi un des vainqueurs de ce combat.
Jean-Philippe Lustig, vous aviez, j'imagine, vous avez commenté dans votre carrière et admiré, j'imagine même aux premières loges, Mike Tyson combattre lorsqu'il était un vrai boxeur, si je puis dire. Comment vous avez vécu la soirée d'hier?
J'ai eu la chance de faire toute sa carrière. C'est-à-dire que, sauf quand il devient champion du monde à 20 ans, en novembre 86, mais à partir de 87 jusqu'à son ultime combat en 2005, je vais tous les vivre du bord du ring ou presque à 80%. Donc j'ai des éléments de comparaison. Donc je me suis levé. Moi, j'ai regardé la soirée. Enfin, la nuit. Ça m'a rappelé les fameuses nuits. Alors, c'est dur.
C'était pas les mêmes nuits.
Il n'y a pas que Mike Tyson qui prend de l'âge, si je puis me permettre.
Ouais, voilà, mais c'était dur. J'ai souffert. Parce que la soirée, heureusement, il y avait un super match Serrano contre Katie Taylor, un championnat du monde.
Le combat féminin, justement.
Le combat féminin très attendu.
L'unification, un match revanche extraordinairement intense, violent, qui vous tient en haleine. Mais tous les combats d'encadrement, il y a même eu d'ailleurs un combat d'influenceur en ouverture de soirée à 12h du matin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on retient? La magie Tyson, la magie quand il sort du vestiaire. Donc tout le monde est là pour le découvrir en direct, voilà. Donc c'est impressionnant, bien sûr, on insiste sur son âge, 58 ans, âge canonique. Vous savez que le plus vieux champion du monde des poids lourds, c'est George Foreman, qui a 46 ans en 94, redevient champion du monde. Mais à l'époque, il n'a pas arrêté 20 ans. Il avait arrêté 10 ans pour reprendre en 87, et pendant 7 ans, il est en activité complète. Mais il avait 46 ans, là, 58 ans. Et il n'a pas boxé depuis 2005, même s'il y avait eu un combat contre Roy Jones en 2020, sur Biroun.
Et une vie particulière aussi.
C'est ce qu'on oublie, c'est qu'il a une vie douteuse, il est passé par la case prison, polytoxicomanie, enfin, c'est pas simple comme retour.
Ah non, mais c'est terrible d'ailleurs. Bon, dans son livre, dans sa bio, il raconte tout cela et tous les travers. Et c'était même un miracle. Moi, j'ai même cru, pour être honnête, au début des années 2000, même jusqu'à son ultime combat devant Kevin Magruder, qu'il n'allait pas terminer sa vie comme un quinquagénaire et qu'il allait même disparaître avant.
Mais alors finalement, il vous a peut-être agréablement surpris hier de le voir au moins capable de monter sur le ring.
On peut toujours se dire, la magie, elle a opéré, quoi. Combien de temps? D'abord, quand il sort du ring, et donc dans cette allée où il avait revêtu à nouveau ce short-là, même s'il avait cette fois pour protéger ses épaules une sorte de pas de peignoir, mais de poncho. Oui. Voilà, alors que tellement il était torse nu quand il boxait. Donc il y a une différence, mais bon, il a peut-être plus froid maintenant, c'est normal. La magie n'est pas la même. Donc il était à combien? À 103 kilos. Donc il a fait un effort pour être présentable sur un plan physique. La préparation a été dense, a été spectaculaire. Mais la réalité, c'est, et là vous l'avez super bien dit, les deux premières reprises, il fait illusion, ça sort un peu, ça va, la tête est pivotante, il sort le crochet gauche, il ébranle un peu. Mais 58 ans, on va pas s'attendre au miracle. Et après, ça va durer. Et là, on souffre pour lui, on souffre. Mais en même temps, il y a une sorte d'émotion. Voilà, c'est une victoire pour lui. Et puis de s'exposer comme ça devant Jack Paul, qui est un influenceur, qui n'est pas un boxeur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut relativiser. Voilà. Donc, il a une licence pro.
Merci.
Non, mais c'est important.
Il avait battu des anciens champions du MMA, Xavier. Hein, donc,
merci Jean-Philippe. Merci quoi, beaucoup. C'est, on passe des années à s'entraîner.
C'est la petite revanche de votre égo.
Pour être comparé à des Jack Paul, non, merci.
Non, mais c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais on s'emballe. Moi, je trouve ça formidable. C'est une preuve de courage de sa part. Après, il a bien choisi. Il a 27 ans. Donc, ça peut être son papa, largement, 31 ans de différence. Non, mais c'est dingue. Après, Jack Paul, il vient déjà des lourds légers. Donc, à la base, c'est même un gros mi-lourd. Après, il boxe en lourd léger à 90 kilos. Il a été à plus de 103. Mais, donc, il donne son direct du gauche. Il fait illusion. Ok. Il a un palmarès très positif. Hein. Il dit victoire, 7 KO. Il a une défaite devant, d'ailleurs, le demi-frère de
Fury.
Tommy Fury. Il a bien choisi quand même un petit peu.
Non, mais tout est bien pensé. C'est-à-dire que, voilà, c'est marketé, c'est exceptionnel. La mise en scène est colossale. Ouais. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est un show dément.
Mais est-ce que ça vous a convaincu? Vous l'avez regardé, Xavier Foupa? Pourquoi vous êtes levé?
Et moi, alors oui, effectivement, c'est un show colossal, un show à l'américaine avec toute la réussite des Américains. Mais la seule chose que je regrette, c'est que malheureusement, dans ces situations, le show se trouve avant le combat, après le combat, mais pas pendant. Pendant, on reste un peu sur notre faim. Comme vous l'avez dit au début... On hésite, on espère voir quelque chose de la part de l'ancien Tyson flamboyant qui va revenir et nous surprendre. En même temps, on est dans la crainte qu'un papy de 60 ans presque prenne un mauvais coup et nous fasse un AVC sur le ring. On sait pas trop. Et au final, c'est un peu pétard mouillé, quoi. Et d'autant que ces fameuses règles, alors, je me suis laissé dire, d'une source non officielle, donc je sais pas, Jean-Philippe, vous allez peut-être nous confirmer, qu'une règle supplémentaire avait été rajoutée. Autrement dit, si un KO intervenait avant la fin du quatrième round, le décompte de ce combat ne compterait pas pour les palmarès professionnels. C'est la raison pour laquelle Jake Paul aurait semblé plus ou moins épargner Tyson dans le troisième round quand il le secoue un peu, qu'il commence à nous danser un petit coupé décalé, qu'il n'a pas poursuivi.
Fallait pas le mettre au tapis à ce moment-là.
C'est ce que raconte un petit peu certaines, je dirais, rumeurs, en tout cas informations non officielles. Je sais pas ce qu'en pense Sofiane.
Ah non, bah si, en tout cas, quand on regarde le combat d'un œil expert, quand on voit des centaines de combats de boxe par an, quand vous voyez celui-là, vous comprenez bien que au bout de quelques minutes, je dis pas qu'il y a un accord tacite, je me permettrai pas de dire ça reste du sport, mais oui, ils ont levé le pied, et je répète encore une fois, le dernier round, c'est une caricature de la boxe.
Alors moi, je vais mettre un petit holà là, par rapport à ça, si vous permettez. Mettre un petit holà, c'est-à-dire que il y a d'abord Jack Paul a une crainte, c'est-à-dire qu'il a beau s'être préparé, il réalise son rêve de gosse, hein. Donc quand Tyson mord l'oreille, et là vous l'avez bien précisé en introduction,
oui, c'est 1997, donc l'année de naissance de Jack Paul, je le rappelle.
Et là, soudain, son rêve, puisqu'il avait déjà pensé depuis 4 ans, il avait déjà défié il y a 2 ans, et depuis 4 ans il y pensait. Donc, c'est de boxer Tyson. Donc, une sorte de rêve se réalise, en plus, dans un contexte, pas dans une salle obscure, devant 3 témoins. Le mec, c'est sur Netflix, devant 73 000 spectateurs.
Et la planète entière qui regarde.
Non, mais Charlize Theron était là. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un monde, il y avait un parterre d'invités, mais c'était dingue. Ouais. Donc, voilà, c'est comme dans les plus grands combats à Vegas, c'était ça. Mais simplement, il y a, il y a une forme de crainte chez Jack Paul. On le voit, c'est-à-dire que, ok, il a 58 ans, il ne peut pas aujourd'hui être ce qu'il a été. C'est inconcevable, impossible, et heureusement, pour un être humain, on ne peut pas être plus fort à cet âge-là que quand on a 30 ans de moins. Mais simplement, Tyson est capable sur un coup de faire encore très mal, parce que quand on frappe, c'est toute sa vie qu'on est capable de frapper fort. Ok, après, bien sûr, l'endurance n'est plus là. Et le côté, un Jack Paul craintif. Donc, il n'y a pas... bien sûr qu'il y a des intérêts financiers énormes, etc. Il faut que ça dure. Mais au-delà de ça, il y a une sorte de crainte aussi. Et on le voit quand il donne ce direct du gauche, même au troisième, même au cinquième, il n'a pas les armes non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut relativiser. Mmh. On le voit, à un moment donné, il titube, Tyson. Il titube, mais il ne peut pas conclure. Donc c'est pour ça.
Il n'était pas complètement à sa main, voilà. Jack Paul. Je suis désolé, Xavier, je voudrais qu'on fasse intervenir un quatrième larron qui n'était pas tout à fait aux premières loges, mais quand même aura des choses intéressantes à nous dire, parce qu'il était dans le pays où s'est déroulé ce combat. Il y est toujours. Good morning, California, LA. Good morning, Loïc Piala. Bonjour, Loïc.
Bonjour à tous.
Alors, la nuit américaine, elle nous a été racontée par Sofiane Amazian. Vous êtes au réveil du côté du pays de l'oncle Sam, mais vous allez quand même nous raconter votre soirée. Ça a été fou, je dirais pas du niveau des élections la semaine dernière, mais est-ce que l'Amérique s'est postée devant sa télévision et pour mieux subir les ratages un petit peu de Netflix? Est-ce que vraiment le temps s'est arrêté aux États-Unis pour le retour de Mike Tyson?
Bah, vu les problèmes que Netflix a rencontrés pour sa retransmission avec tous ces buffering, ces images qui s'arrêtaient et ce genre de problèmes, il y avait visiblement beaucoup de monde devant l'écran, 120 millions de personnes selon Jake Paul. Donc ici aussi, évidemment, ça a fait parler. Moi, j'ai reçu des messages de gens qui me demandaient si je regardais, donc alors que ça arrive quasiment jamais sur des combats. C'est vraiment un combat. On était au-delà de la simple boxe. Il y avait beaucoup de gens qui ne regardent jamais ce sport-là, qui étaient devant leur écran par curiosité essentiellement, peut-être aussi parce que Jake Paul n'est pas la personnalité la plus appréciée des États-Unis et qu'il y avait quand même cette envie que Tyson le mette KO. Ça a dû motiver beaucoup de téléspectateurs. Mais ouais, et même c'est aussi un combat qui a été suivi par la presse généraliste en général, ce qui n'est pas forcément le cas. En boxe, donc il y a eu une couverture de ce combat qui est, à mon avis, assez disproportionnée, mais aussi clairement anormale, entre guillemets, par rapport à ce sport.
Et est-ce qu'on a des réactions, justement, alors dans les médias spécialisés, dans les réseaux sociaux, le territoire, si je puis dire, le vrai ring de Jake Paul, et puis dans chez les journaux généralistes, les médias généralistes dont vous parlez, qui, pour une fois, depuis longtemps, s'intéressaient à la boxe?
Le New York Post, par exemple, parle d'un combat soporifique. Forbes, qu'on n'imagine pas forcément parler de boxe, parle de désastre. Pour le New York Times, c'était décevant. Et puis, il y a des personnalités, évidemment, qui ont suivi le combat Magic Johnson, notamment grand fan de Mike Tyson. Il y a énormément de fans qui sont branchés pour voir ça. Pour lui, c'était pas vraiment la meilleure pub qui soit pour la boxe. Mais la réaction que je trouve la plus représentative, finalement, c'est celle de J.J. Watt, qui est une ancienne star de la NFL, vous le savez, des Texans de Houston, et qui a tweeté: je suis en colère, je suis furieux après moi d'être resté réveillé pour ça, j'aurais dû m'en douter. Et ça a été la réaction finalement de plein de gens, à savoir, on a parlé de cirque, on a parlé de combat décevant, et finalement, qu'est-ce qu'on attendait, quoi? Évidemment qu'il y avait 90% de chances pour que ça se passe comme ça, avec un boxeur de 58 ans qui, vous l'avez rappelé, a comme une vie très chargée, et donc qui n'avait pas forcément... qui n'avait plus forcément l'énergie pour ça, même contre un boxeur de second, voire de troisième rang comme Jake Paul. Et donc finalement, il y avait une forme de culpabilité. En même temps, on n'avait qu'à pas regarder, quoi. On savait ce qu'on allait avoir et on l'a eu.
Jake Paul, il est entré au son de In the Air of the Night, In the Air of Tonight, je ne sais plus, le tube de Phil Collins, si j'ai un petit trou sur le titre Collins, de la chanson.
In the Air of Tonight, c'est la même chanson que... Mayweather choisit ça de temps en temps.
Et a priori, ce serait un hommage à la carrière entre guillemets cinématographique de Mike Tyson, sportif évidemment, mais personnalité américaine globalement très célèbre durant plusieurs décennies. Il y a une quinzaine d'années, l'ancien poids lourd faisait une apparition décalée dans son propre rôle sur le grand écran à l'affiche du film Very Good Trip. Oui, c'est le titre français en fait.
Venez. Vous avez laissé de la musique. sert.
Non, qui vous êtes-vous?
Silence, silence.
Mike Tyson.
Chut, c'est mon moment préféré, là. Allez, tous en cœur.
Oh, Lord.
I've been waiting for this moment all my life.
On reprend les mecs.
Oh, Lord.
Oh, oh, la vache. Oh, oh. Mais pourquoi vous avez fait ça?
Monsieur Tyson souhaiterait savoir pourquoi son tigre est dans votre salle de bain.
Ouais, mais attendez, attendez, ça, c'était absolument pas nécessaire. Hé, hey, je suis un immense fan. Quand vous avez mis K.O. Holmes, c'était vraiment
expliqué.
Incroyable.
Very good trip. Alors ça, c'est le titre français, c'est Hangover pour les anglophones. Et donc Tyson dans l'autodérision est un rôle qui peut-être indique ce qu'il représente dans l'imaginaire collectif. Un homme qui peut être assez violent, un peu gangster sur les bords, gentiment fou. Alors sachant, la parenthèse est importante, que l'homme a tout simplement, l'homme Mike Tyson, été emprisonné pour viol, hein, ce qui n'est évidemment pas sympathique. Est-ce qu'on pourrait le résumer un petit peu comme ça? Est-ce que, voilà, dans l'imaginaire collectif, il est à l'image de ce rôle un peu caricatural, ou une auto-caricature?
Mais si vous permettez, Hugo, j'enlèverais le mot un peu semi-gangster. Non, parce qu'il n'a pas baigné dedans. Il n'a pas baigné et il n'a jamais eu de contact avec.
Alors, dans sa jeunesse, avant la boxe.
Absolument. Avant, quand il est à Brownsville, à New York, là, dans ces ghettos-là, oui, nombreux de ses copains vont mourir très jeunes. La drogue, les assassinats, les règlements de compte, ou sinon, il termine en prison. Et la boxe le sauve quand Cus D'Amato le récupère pour l'entraîner. Mais après, non, il ne fréquente pas cet univers-là. Après, les raisons de ses écarts, c'est l'argent. Il devient extraordinairement célèbre trop vite, trop jeune. Il faut se rendre compte que quand il devient champion du monde, donc à 20 ans et 4 mois, ce qui est le plus jeune de l'histoire en poids lourd, il y a une marque comme, pour ne pas la nommer, Pepsi, qui devient son sponsor. Moi, pour avoir commenté au Japon en 89 et 90, deux de ses championnats du monde, au Japon, lorsqu'il boxe, il est adoré par toute une population de jeunes, de teenagers japonais qui regardent la bête là et qui se déplacent au Korakuen Stadium, qui était le Big Egg, et il y avait 55 000 spectateurs. C'est colossal, la notoriété. Il a 22-23 ans, c'est des choses qui nous échappent. Donc, après, il y a la folie, de l'argent, cette notoriété et les raisons qu'on invoque, ce viol terrible, cette condamnation à la prison et ensuite la déchéance, plein de choses. Voilà, mais absolument, sa vie est dingue. Sa vie est dingue jusqu'à cette morsure en 97 qui est très symbolique d'un parcours où le boxeur ne s'appartient plus, l'homme dérive en permanence, se hait même lui-même et n'a plus de solution sur un ring parce qu'il n'est plus aussi fort qu'il était. Et donc, il est frustré, il l'accepte plus. Et c'est pour ça qu'il y a ces extrêmes. Et le fait qu'il remonte sur un ring, c'est aussi pour un petit peu à nouveau exister, montrer à sa famille, les enfants, le monde entier, je suis toujours vivant, je suis capable encore de boxer. Donc, par rapport à ce combat-là, qui est un non-combat, c'est donc un événement, c'est un show. Mais de revoir Tyson, il ne faut pas qu'il en refasse des combats. À la fin, un peu sonné, il dit « Non, je remonterai peut-être, il a du mal à parler. »
Ah oui, il voudrait affronter le frère de...
Il lui dit « Mais ça ne sert à rien, je vais te tuer », qu'il avait dit sur le ring ce matin. Il lui a dit « Non, non, mais I'm gonna kill you !» Il était là, « Non, mais attends, t'es malade, quoi, en clair, c'était ça !»
La morsure, on en a parlé une fois, deux fois. Ça rappelle que cette morsure face à Holyfield en 97 à Las Vegas, elle n'a pas eu lieu qu'une fois, mais deux fois même, on se replonge dans les archives.
Ah ouais.
He got bit, I think. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here. Above us, a dirty Mike Tyson. Biting Holyfield in the right ear.
Hurts like hell, but he certainly had a big bite.
But he bit his ear, I can see the bite mark. 2-point deduction, the fight will go on. 2-point.
Major controversy here in round 3.
I'll tell you what, this is unbelievable.
That is incredible. Look at the reaction again from Holyfield. He can't believe it. He got the second one.
This is the second bite of the round. Right on Evander's ear.
It's like Dracula.
I told him, I said, one more time like that, it's it. You're gone.
Get an interview with Evander Holyfield. Love to hear his reaction.
Oui, 97, il ne peut pas s'arrêter, notre ami Mike Tyson. Deux morsures dans le troisième round contre celui qui est peut-être le meilleur boxeur de ces années-là, Evander Holyfield. Ce qui est marrant, c'est que la première morsure, l'arbitre, il dit, bon, deux points de pénalité, vous recommencez plus. Hein. Ça paraît un petit peu dingue. On n'imagine pas Cédric Doumbé combattre Mike Tyson dans ces conditions-là. C'est une image qui a fait le tour du monde à l'époque où les images ne faisaient pas aussi facilement le tour du monde.
1997.
C'est quoi votre... Xavier Foupa-Pocam, vous, vous étiez où en 1997? Vous débutiez votre carrière, pas encore?
En 97, très bonne question. 97.
Et votre rapport globalement à la célébrité qui était Mike Tyson dans ces années-là, j'imagine que vous étiez déjà prévu, programmé dans votre tête pour devenir un grand sportif.
Alors, j'étais fan,
un grand combattant.
J'étais fan, j'étais admiratif, effectivement, c'était l'époque, donc je me levais la nuit pour le regarder combattre. 97, j'étais encore karatéka. J'avais pas encore commencé la boxe thaï, j'ai commencé l'année suivante et le MMA ensuite l'année qui a suivi.
Et que représente pour un jeune karatéka des années 90 Mike Tyson?
Mais quelqu'un de terrifiant en fait. Moi à l'époque, donc, je faisais du karaté, et le karaté qui est basé donc sur la vitesse, sur la gestion de la distance, sur le contrôle de ce qu'on fait. Même en compétition de haut niveau, on n'est pas censé percuter son adversaire, on n'est pas censé porter les coups. Quelqu'un comme Tyson qui à la fois reste debout face aux impacts et qui est capable d'envoyer n'importe qui sur la lune, c'était terrifiant en fait pour un karatéka, c'est censé être un combattant. Donc oui, il avait quelque chose de fascinant en fait pour moi.
Jean-Philippe Lustig, 97, c'est déjà un déclin. Les morsures, elles annoncent déjà, comme vous le disiez, un moment de déclin pour Tyson, qui aura en fait deux axes, on va dire, de temps dans sa carrière, avant la condamnation pour viol, si je puis dire, et puis le retour dans le cœur des années 90. Est-ce que c'est assez bien résumé?
Non, c'est bien résumé, Hugo. Il y a le Tyson intouchable, le Tyson imbattable, Iron Mike qui fascine. C'est 4 ans seulement. Faut bien l'avoir en tête. C'est 85 ans. C'est même 5 ans. Enfin, il passe pro en mars 85 et il est battu au Japon en février 90. Pendant ces 5 ans, à peine, il est dément. C'est-à-dire qu'il gagne tout de façon expéditive, il est terrifiant, il gagne bien avant d'ailleurs le premier coup de poing, puisque les adversaires prennent peur avant dans le vestiaire ou dans l'arrivée sur le ring. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Hein. Honnêtement, alors j'ai pas connu avant dans les années 60, mais pour suivre la boxe maintenant depuis près de 40 ans, je n'ai jamais vu cela. Et on n'a jamais vu cela, même dans l'histoire, là, quelqu'un qui était aussi terrifiant. Après, à partir du moment où il est battu à Tokyo, il a que 24 ans à peine, il tombe, c'est la déchéance. Donc
sur les rings et dans sa vie.
Mais exactement.
Parce que la condamnation pour viol va suivre, mais il y a d'autres problèmes.
C'est en 92 qu'il est donc condamné à la prison. Il ressort en 95. Il va faire ses combats de rentrée et ensuite il va affronter deux fois Holyfield 96-97. Mais derrière c'est terminé. Et quand il meurt après, il est suspendu. Il va boxer au Danemark, il va boxer en Angleterre, il va boxer en Écosse. Il fait un tour d'Europe dans les années 99-2000-2001 parce qu'il est suspendu par les États américains, par les commissions américaines. Donc, et là, il est l'ombre de ce qu'il était. Il est à 50% de ce qu'il était. C'est cela, Tyson. Donc, cette fascination, elle est très courte, mais elle a tellement marqué les nuits et les mémoires. C'est ça qui est fou chez lui.
Alors, on a ressorti avec Claude Battista qui est à la réalisation l'archive de son premier combat pour sa première ceinture de champion du monde. Il détient toujours le record de précocité, c'est ça? À peine plus de 20 ans pour un premier titre de champion du monde. 86, il affronte et il bat surtout et battre le mot est faible, Trevor Berbick. Oui, la nouvelle ère dans l'histoire de la boxe. Parce que les images sont impressionnantes. Le pauvre Berbick, il essaye de se relever. Et alors là, il voit à peu près tout sauf des choses qui existent. Il tombe, retombe, il va s'écraser sur les photographes. Il est plus que sonné. On a l'impression que c'est une boule de démolition qui lui est passée dessus.
Oui, c'est un démolisseur. Et ce qui est hallucinant, c'est que Tyson, c'est pas le puncher comme Thomas Hearns qui électrocute, clac, c'est fini. Tyson, il vous ébranle. Les coups donnés par Tyson n'ont pas le même bruit que les autres. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est au bord du ring, avec Jean-Claude Boutier à l'époque, et je pense beaucoup à lui, Il y a quelque chose de terrifiant. Et les boxeurs, là, sont ébranlés. C'est-à-dire que ça vous saisit. Donc, quand il enchaîne avec ce fameux uppercut ou le crochet gauche, là, à l'intérieur ou au foie, mais ça vous brise. Et à partir de là, vous êtes démoli. C'est pas un coup juste là, vous êtes démoli en permanence, vous êtes ébranlé, vous êtes secoué comme dans une machine à laver. C'est dingue cette sensation-là. Alors imaginez-nous du bord du ring, est-ce que les boxeurs encaissent ? Et Berbick en est cette victime quand il est démoli en deux roues, lui le champion du monde WBC. C'était le 22 novembre 86.
Ouais, c'est une vraie onde de choc en fait, hein. Juste l'impact finalement.
Malgré un physique, il est petit, parce qu'on voit les images, il est plus petit que ses adversaires avant de les mettre au tapis. Ça fait aussi partie de ses caractéristiques,
Vis-à-vis Foo Papokam. Sauf qu'il a adapté justement son style en conséquence, c'est-à-dire qu'il est petit effectivement, donc il est plus court, moins d'allonge, il est très groupé dans sa garde et il se déplace en fait en explosivité. D'ailleurs, avec son genou endommagé, forcément, il ne pouvait pas se déplacer et jaillir comme il le fait d'habitude pour casser la distance. Il ne pouvait pas se déplacer avec la même rapidité, la même explosivité et vitesse qu'il le faisait habituellement. Et résultat, il devient une cible immobile pour un Jack Paul qui n'a plus qu'à tendre le bras et à faire de l'escrime avec lui.
Loïc Piala à Los Angeles, qui participe aussi à notre émission, qui nous écoute et qui patiente gentiment. On le retrouvera tout à l'heure, Loïc. On va accueillir du coup un nouveau prétendant, un nouveau challenger dans cette émission, qui lui ne répond pas. Bon, on a des petits soucis techniques. Mike Tyson est passé par la régie peut-être. Il a démoli les boutons et les feuilles et les lignes téléphoniques. Peut-être effectivement qu'on a les mêmes soucis que Netflix hier, on n'avait qu'à pas se moquer d'eux. Alors peut-être cette question, Jean-Philippe Lustig, sur Mike Tyson, son style, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'époque quand il arrive pour marquer autant les esprits? On n'est pas si longtemps après la fin, si je puis dire, de Mohamed Ali. La boxe est encore quelque chose d'absolument énorme aux États-Unis à l'échelle du monde, et il manque peut-être une figure de proue, et Tyson va être une sorte d'héritier. D'ailleurs, les deux, il y a eu un passage de relais, en tout cas en coulisses, entre les deux.
Oui, c'est-à-dire que Ali, son dernier combat, c'est 81. Mais Ali est champion du monde jusqu'en 78, lorsqu'il bat dans un combat revanche Spinks. Il va encore faire des ultimes combats à 39 ans, les combats trop, ce qui aggravera après son syndrome de Parkinson et sa maladie. Mais donc, une sorte de transmission, c'est Larry Holmes qui fait le lien, l'ancien sparring partner. D'ailleurs, le même Tyson battra avant la limite Larry Holmes. Mais quand Tyson arrive, il y a des champions du monde qui sont, je dirais, moyens, peu médiatisés, 82, 3, 4, un peu noyés, WBA, WBC, très bien, donc Berbick qui a un titre, mais il n'y a pas. Et lui, il va unifier, il va mettre un an à unifier, mais c'est le personnage Tyson. Il n'y a pas eu de construction, il n'y a pas eu de médiatisation ou de surmédiatisation. C'est un phénomène. On parlait de son physique, hein, comme tu le disais très justement, Xavier.
Aussi.
Absolument. C'est un cube, hein. Pour l'avoir tellement vu, il fait 1,78. Son poids de forme, c'est 98-99 kilos. Il a des mains énormes, il a des pieds, il change du 46. C'est un petit bonhomme-là avec des quadriceps énormes. C'est cette vitesse, cette tête pivotante et ce travail spécifique qu'il a fait pour réduire la distance et aller à une vitesse vertigineuse. C'est prodigieux et après, tout a été monté, mais parce qu'il va boxer tous les mois, hein. C'est-à-dire que la première année, il boxe 17 fois, je crois. C'est fou. Donc, c'est dingue. Et on n'a jamais vu cela, voilà.
Loïc Piala à Los Angeles, vous êtes revenu. Désolé, on a eu quelques petits soucis au niveau de nos connexions téléphone. On est retourné dans les années 80 nous-mêmes grâce à Jean-Philippe Lustig. Loïc, vous êtes bien en ligne. Je voulais un petit peu savoir, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la carrière, le parcours de Mike Tyson, quelle est son image aux États-Unis? On a dû évidemment de nouveau tirer son portrait un peu partout, dans la presse, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Quelle image, notamment quand on sait qu'il y a quand même eu des soucis, une condamnation pour viol, de la violence, et en même temps, la boxe, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si ça joue, mais ces combats, ces plus grands combats, ils avaient lieu à Atlantic City, dans le Trump Plaza. Trump comme vous savez qui. Donc je ne sais pas si ça joue, s'il y a une Amérique aussi qui a envie un petit peu de réhabiliter Mike Tyson. Quelle est son image, Loïc ?
Elle est complexe, cette image, parce qu'effectivement, il y a quelque part, Mike Tyson, c'est la boxe pour plein de gens. Quand vous pensez boxe, c'est peut-être le premier qui vient, alors que c'est sans doute pas, monsieur Lustig confirmera, le meilleur boxeur de l'histoire. Techniquement, il a forcément des défauts, mais il a, voilà, cette image de puissance qui est restée, et beaucoup de gens qui ont regardé ce ce combat hier, c'était pour revivre un peu cette magie qu'il a laissée, parce que voilà, vous, encore une fois, vous pensez boxe, vous pensez Mike Tyson, mais il a aussi une vie dissolue à un moment, mais il a aussi, il s'est lui-même réhabilité, il est monté sur scène pour raconter sa vie, un spectacle qui était mis en scène par Spike Lee d'ailleurs, on l'a vu au cinéma, et puis là il s'est reconverti dans le cannabis, il s'est devenu une sorte de business pour lui, et donc il y a une image qui s'est un peu assagie, là quand il a parlé du combat, il a parlé de montrer ce qu'il était à ses enfants, ça a aussi touché les gens. Beaucoup de gens n'oublient pas non plus ce qui s'est passé effectivement au début des années 90 et la violence, mais je crois qu'il a quand même une image globalement positive. On sait qu'il a ses démons, mais ce n'est pas quelqu'un qui est détesté par et les fans de boxe et par le public américain en général, parce qu'il représente finalement quelque chose de plus que lui-même. Et c'est assez impressionnant effectivement aux États-Unis. Quand moi j'ai eu la chance de couvrir plusieurs combats à Las Vegas, et quand il y a Mike Tyson qui rentre pour s'asseoir au bord du ring, il y a un frisson dans toute la salle. Ça fait ça avec le seul autre boxeur avec lequel j'ai vu ça, c'est Julio César Chavez, parce qu'il y a beaucoup de Mexicains évidemment dans le Nevada et en Californie. Mais ce sont vraiment les deux seuls boxeurs avec lesquels il y a cette espèce de passion des années après leur carrière professionnelle, et ça c'est vraiment resté, c'est assez impressionnant.
Mondial Sport sur RFI, on parle du retour effectivement de Mike Tyson sur les rings.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
He's come back for one of his occasional visits.
Brownsville is a very poverty stricken area. When I lived there, it was hell. There's no heat in the building, no water, can't take a shit, can't piss, can't flush the toilet. It's some nasty shit.
They shooting. Oh, I made you look.
This was the band that building. We used to play tag in this building. It lets me know that I'm nobody. Sometimes I think I'm somebody, but when I come back here, I realize I'm nobody. This place was such, it was tore up. This shit was disgusting. Yeah. Shit on the floor, animal shit on the floor, clothes all over everywhere. We're animals, my mother's. Oh, shit. This is where we had my first fight. There's some guys that came to steal my birds. He said, fuck you, you fat nigga, and ripped their head off. And that was the first time I had a fight.
You ready for this?
I'm ready.
Always ready, right?
Well, I'll be ready that night.
Avant le combat contre Jake Paul, Netflix a diffusé un documentaire pour faire monter la sauce. Et dans ce documentaire, Mike Tyson revient dans son quartier natal à Brooklyn. Il raconte son premier appartement, un taudis sans toilette, des excréments d'animaux un peu partout sur le sol. Il raconte sa première bagarre. Il était gamin dans la rue, une personne qui arrache la tête de ses pigeons. Parce qu'il faut savoir que Mike Tyson est un grand amoureux des pigeons. Il a beaucoup de pigeons chez lui, on le voit aussi dans le documentaire. Donc il se bat contre cette personne qui l'agresse. Bref, Tyson nous raconte une enfance absolument glauque et le point de départ d'une vie qu'on a un peu racontée et qui est difficile également, d'une personnalité un petit peu torturée. C'est quelque chose qu'on doit souligner, qu'on se doit de souligner et qui transparaît dans sa boxe, Jean-Philippe Lustig.
Bah oui, parce que non, mais ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que il n'y a pas, et c'est tout le paradoxe, le plus grand, qui est donc Mohamed Ali, comme il s'appelait comme cela, le plus grand en termes médiatiques, enfin bon, pour plein de raisons, même s'il semble un peu juristique, ça sera un autre débat, c'est pas forcément le plus fort de l'histoire, mais ça, c'est pas important. Donc c'est tout le paradoxe. Cassius Clay, donc devenu Mohamed Ali, n'a jamais eu faim, n'a jamais été élevé dans un milieu glauque et de souffrance, si ce n'est le ségrégationnisme, quand il est dans son Kentucky, voilà, à Louisville, dans sa ville natale. Mais c'est la middle class américaine. Mais Tyson et l'illustration, Loïc a parlé de Chavez, tous ces boxeurs, tous ces plus grands, ont une vie d'une dureté totale. La boxe les sauve. Pour eux, le ring est moins dur que leur vie. D'où ce comportement qu'ils ont. Pour être un immense champion, Holyfield, la même chose. Les plus grands, ce sont les plus durs. Ce sont les plus violents intérieurement. Toute cette haine qui est en eux. Et ils peuvent l'extérioriser sur ce carré, cet espace magique qui fait que 25 mètres carrés. C'est cela, ce qui se passe. Donc, c'est en cela que la boxe est spéciale et que ces boxeurs sont spéciaux. Ces champions sont hors normes. Donc, cette souffrance-là l'a construite. Et aujourd'hui, apaisé, c'est assez extraordinaire parce que devant Jack Paul, je pensais à cela hier soir. Jack Paul, donc, a été hué, en quelque sorte. C'est le bad guy. C'est celui
C'était le méchant ça. Du film.
Voilà. Alors que Tyson l'a été durant toute sa carrière. C'est cela qui est terrible.
Le respectable, c'était devenu Tyson hier. Le notable, quelque
part. Mais oui, et c'est merveilleux, je trouve. Ça fait plaisir. Et Tyson est aimé par ces jeunes. Aujourd'hui, il le découvre. Voilà, on est content au-delà de son âge.
Mais c'est aussi parce que tout le monde l'a vu manquer de respect à cet ancien, à cette...
Oui, ça aussi. Moi, mais c'est vrai, mais en même temps, on a envie... C'est ça qui est intéressant. Comment il y a cette transformation, ce virage-là de cet homme apaisé, mais qui a des souffrances en lui, qui a des travers. Il n'est pas à l'abri. Ça va mieux, fort heureusement. Mais ça explique aussi donc cette boxe violente de démolisseur. Et il n'avait pas la moindre tendresse au début de sa carrière où il était le plus percutant pour sa victime, pour celui qui l'a défoncé. Et quand il s'humanise, il devient moins redoutable. Quand il fait preuve d'affection et de gentillesse avec le boxeur qui l'a mis KO, il n'est plus aussi fort.
C'est ça. Et moins intimidant aussi.
Et ouais.
Exactement. Vous voyez, la colère est un bon moteur, Xavier Poupapocam. Alors, je vais vous mettre en colère. Un peu, voilà, c'est pas le professeur X, ce sera l'incroyable Hulk. On va écouter votre ami Jake Paul s'exprimer. C'était avant la présidentielle américaine. Il choisit de porter son vote sur l'un des deux candidats. Je vous laisse deviner lequel.
I think it would be better to have a president that doesn't want biological men competing in women's sports. And not to mention, biological men in women's restrooms. What world have we gotten to where that seems acceptable? Trump had peace in the world. Why? Because people respect him. Imagine Vladimir Putin, one of the most powerful, hard men on the planet, in a meeting with Kamala Harris, talking about war. Yeah, right. For the love of God, go exercise your right to vote on my behalf and vote for Donald Trump in this election. America depends on it.
Voilà, il faut voter. Il y croit. Il est quasiment au bord des larmes. Il tape sur sa table à la fin. Jake Paul, parce qu'au moins.
C'est pas le seul, hein. On a beaucoup en fait de personnalités du monde des sports de combat américains qui finalement font quasiment allégeance à Donald Trump publiquement.
Et notamment le chef de l'UFC, si je puis dire.
Le Dana White. On a beaucoup de combattants UFC toujours américains qui affichent ostensiblement un soutien à Donald Trump, mais il y a des raisons qui l'expliquent. Parce qu'effectivement, Donald Trump fait partie des personnes qui déjà ont soutenu l'UFC au départ lorsqu'il était l'organisation était au fond du gouffre. Aussi parce que c'est l'ami du président de l'UFC, donc forcément c'est toujours bien d'être l'ami du président et l'ami de ses amis et que beaucoup de gens, j'imagine, attendent des retombées de ce type d'amitié. Donc c'est, ça ne me surprend pas, moi, mais qu'il fasse allégeance à ce point-là de façon publique.
Alors que les sports américains, pardon, collectifs, en NFL au basket, c'est l'inverse. Ils sont démocrates. Tous les joueurs et les joueurs majeurs ont pris des positions très fermes, soutenant Kamala Harris.
Hein, mais bon, c'est marrant, j'en ai parlé tout à l'heure. Trump, il est là aux premières loges. Il est un acteur des premiers succès de Tyson. Il est encore là, soutenu par Jake Paul maintenant. Bon, il y a des personnages comme ça. Don King aussi, le fameux promoteur de boxe, qui est encore vivant, qui s'est encore exprimé sur Tyson. Hein. On rappelle que c'est aussi l'un des organisateurs du combat. Ali Foreman à Kinshasa.
C'est lui, hein.
C'est même complètement
génial.
Lui.
D'ailleurs, c'est le 50e anniversaire, là. C'était il y a 15 jours.
Et exactement, on l'a fêté sur RFI. Simplement, Xavier, pour rebondir sur ce que vous dites, Loïc nous en parlait, hein, de cette allégeance un petit peu du monde des sports de combat à Donald Trump. Loïc, quelle est l'image de Jake Paul au-delà de ses soutiens ou pas aux hommes politiques? Jake Paul, c'est quoi pour l'Amérique? Maintenant, c'est l'homme qui a battu Tyson à 58 ans, mais c'est quoi sinon? C'est des millions et des millions d'abonnés sur YouTube, par exemple.
Ouais, c'est 28 millions de followers sur Instagram, j'ai vérifié ce matin, c'est-à-dire plus que Canelo Alvarez, qui est quand même aujourd'hui la plus grande star de la boxe. D'ailleurs, hier, Netflix, dans sa présentation, vous l'avez peut-être vu, l'a présenté comme ça, comme le boxeur le plus suivi sur les réseaux sociaux, comme si c'était quelque chose de significatif, visiblement. Et c'est pas qu'il a été hué hier, hein, parce qu'il est pas apprécié. C'est vraiment. Moi, ce que j'arrive pas à savoir, c'est si c'est son personnage, c'est vraiment quelqu'un de mauvais, ou si c'est juste un personnage qui joue. Il est sur les réseaux sociaux depuis 2013, depuis qu'il est ado, en fait.
Mais c'est quoi son personnage exactement sur les réseaux sociaux? Bah,
c'est un peu du jackass du pauvre, vous savez. Qui faisait des cascades un peu folles, et donc.
Côté un peu petit con, gamin turbulent, quoi.
Adolescent gâté.
Si vous me demandez, c'est un peu l'illustration de la médiocrité de notre époque, mais il est très apprécié. C'est un businessman qui à succès, donc il faut bien reconnaître que ce qu'il entreprend, parce qu'on a dit que c'était un youtubeur, on sait que c'est un boxeur, mais il a aussi été acteur, il a aussi été chanteur, et donc c'est un businessman qui a monté lui-même sa boîte de promotion, donc à son âge, c'est quand même impressionnant ce qu'il a accompli, mais c'est vrai que c'est un personnage de réseaux sociaux qui fait des sketchs un peu débiles, enfin on peut trouver ça un peu idiot, mais en tout cas il a clairement un public et donc c'est assez impressionnant, mais pas forcément quelqu'un de très apprécié. Je vous le dis, beaucoup de gens hier se sont branchés. J'ai les pompiers qui
voulaient le. Ouais. ils viennent au chevet justement de d'un des deux combattants. Oui, en gros, les gens voulaient qu'ils se prennent une petite leçon par Xavier. Ouais. Vous lui auriez bien administré cette petite leçon, c'est ça.
Tout le monde aurait aimé. Effectivement, il fait partie de ce genre de personnes.
Une simple paire de claques. On n'est pas pour la grosse violence. Hein. Oh. On précise. Dans les règles de l'art, avec
une bonne punition quand même. Tant qu'on reste dans le cadre
des règles, professeur. Non, mais bon, c'est oui, un sportif de combat. Vous avez envie de voir ce genre de personnage s'offrir une telle publicité, ou là vraiment ça vous choque?
Bah évidemment pas du tout, et évidemment pas du tout. Non seulement s'offrir une telle publicité et offrir une telle publicité à nos disciplines, c'est bien malheureux pour nous les athlètes, mais qu'on le veuille ou non, c'est symptomatique de notre époque et c'est le genre d'évolution qu'il va falloir accepter, au risque d'être considéré comme un vieux concombre, parce que mes filles écoutent, on ne sait jamais. Donc, ça vient avec l'époque, il va falloir faire avec.
Est-ce que le MMA, alors c'est pas pour dire que vous avez déjà créé ce problème-là, mais déjà le MMA a supplanté un petit peu dans les esprits la boxe, parce que peut-être un tout petit peu plus spectaculaire, justement, peut-être plus en phase avec certains codes.
Plus spectaculaire, plus accessible, ouais. Aussi, plus lisible pour un public de néophytes. Finalement un peu plus proche de ce qui pourrait ressembler à un combat qu'on imagine dans la vraie vie, entre guillemets, en dehors du sport. Et puis, il y a toujours ce parfum de nouveauté, finalement, c'est vent de fraîcheur qui amène le MMA et que les gens aiment bien aussi. Au départ, les tracteurs du MMA aussi, certains, en tout cas, craignaient que le MMA vienne prendre toute la place par rapport aux autres sports de combat. C'est un peu le cas, mais surtout, moi, je pense, et je le pensais déjà avant, c'est que il vient tirer aussi, comme une locomotive, les autres sports et leur apporter de la lumière. Et ça, c'est une bonne chose.
Oui, mais ça, je suis d'accord avec ça. Lorsque McGregor rencontre Mayweather en 2017, le champion irlandais de MMA, ouais. Et Mayweather qui est pratiquement à la retraite, il y a eu un éclairage incroyable. Donc là encore, c'était à la limite du show. Très bien.
Bon, et puis on a eu Francis Ngannou contre Tyson Fury, Joshua.
Donc, et il le met au tapis, un Tyson Fury qui va au tapis devant Ngannou qui avait un seul combat. Enfin, c'est délirant. Mm-hmm. Même si après Joshua va le mettre KO très vite. Donc non, mais je ne pense pas que ça puisse porter préjudice au noblard le développement du MMA.
Jean-Philippe, je vous avais promis une promo d'enfer. Il nous reste une trentaine de secondes pour parler de votre podcast. Alors c'est Ring Story. Ouais. Sur l'équipe.fr, exactement. Donc ça on peut écouter.
Ouais, bien sûr, et je raconte les plus grands combats que j'ai vécu du bord du ring avec des anecdotes autour de cela. Parce que sinon tout le monde peut voir un combat sur YouTube, mais en revanche, ce que j'ai vécu, c'est des moments privilégiés, et notamment
rang.
Tyson Spinks, Holyfield.
Avec les gouttes de sueur qui vous arrivent, ça suivant les gouttes de sang, et puis le grand livre de la boxe aux éditions Marabout, ça c'est l'encyclopédie de la boxe.
Ouais, qui sort il y a 5 ans, nouvelle édition qui sort le 20 novembre, réédition augmentée, avec des QR codes dans le livre. Qui rejoignent, qui permettent de redécouvrir mon podcast, des nouveaux chapitres, des mises à jour, avec notamment la boxe féminine et le développement jusqu'à Usyk Fury aujourd'hui. Donc voilà.
Merci à vous et merci à Claude Batista.
Merci.
Mondial Sport, émission du 16 novembre dernier. À réécouter sur notre site internet www.rfi.fr. Demain dimanche, nous vous proposons un autre voyage dans le temps, un ancien numéro consacré au tennis de table en compagnie de la Camerounaise Sarah Anfou. En attendant, très belle soirée à l'écoute de la Radio du Monde.